carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christa Leuc.
Les frères Caillebotte. En ce printemps 2011, le musée Jacques Marandré change de siècle. Après plusieurs expositions d'art du XIIe au XVIIe siècle, rappelons les primitifs italiens, ou Rubens, Poussin et les peintres du XVIIe siècle et beaucoup d'autres, le musée nous porte cette fois à la fin du XIXe siècle, au temps des frères Caillebotte. Gustave Caillebotte est peintre très actif parmi les impressionnistes. Son frère Martial est compositeur de musique, ami des plus grands noms de son temps, mais reste plutôt inconnu à ce jour. Il a cependant pratiqué la photographie en amateur éclairé. Et cette exposition nous donne l'occasion de mieux comprendre l'univers des frères Caillebotte. Nicolas Sainte-Fargarneau, conservateur du musée Jacques Marandré, nous a réitéré le plaisir de répondre à notre invitation. Il nous parle de ces deux artistes qu'il expose à son musée-hôtel particulier du boulevard Haussmann au centre de Paris. Nicolas Sainte-Fargarneau, bonjour.
Bonjour.
Dans la première partie de notre entretien seront évoqués le nouveau Paris haussmannien de la Troisième République que traversent les frères Caillebotte et aussi la transformation de la ville et les effervescences artistiques, ainsi que le parcours des deux Caillebotte dans cette époque et puis aussi le portrait et le trait de caractère de chacun des deux frères. Ensuite, après la pause musicale, avec une composition de Martial Caillebotte, Nicolas Sainte-Fargarneau va plonger son regard dans l'œuvre de Gustave Caillebotte, le peintre, et de Martial Caillebotte, le photographe. Alors, Nicolas Sainte-Fargarneau, ceux de nos auditeurs qui s'intéressent à l'art vous connaissent très bien. Nous avons eu le plaisir de faire écho à nombre de vos expositions. Celles, par exemple, sur Fragonard ou l'Argilière et beaucoup d'autres. Et aujourd'hui, nous changeons donc de siècle pour nous pencher sur les frères Caillebotte. Alors, il se situe à la fin du XIXe siècle, dans le nouveau Paris haussmannien de la Troisième République, et il traverse cette époque un peu en dandy, mais aussi et beaucoup en observateurs attentifs. Avant d'évoquer la vie des frères Caillebotte de plus près tout à l'heure, peut-être pourriez-vous la situer dans le panorama de l'époque, transformation de la ville et puis toutes ces effervescences artistiques. Nicolas Sainte-Fargarneau.
Très volontiers, et je pense que vous avez en effet raison d'installer le décor qui est celui dans lequel vont vivre et travailler les deux frères. C'est celui de ce Paris que Napoléon III a découvert, vous savez, en 1852. Et n'oublions pas qu'à l'époque, cette grande ville, capitale de notre pays, sort de plusieurs épidémies. On l'a oublié, c'est une ville totalement insalubre et cette ville est dangereuse. Napoléon III a le désir très profond d'apporter un certain nombre de changements et l'un des plus importants est donc de modifier l'urbanisme de cette ville. Alors, les nostalgiques du Paris médiéval vont se rappeler que le cœur de l'île de la Cité, devant la cathédrale, a été rasé par le baron Haussmann et qu'à la place, on a fait cette grande esplanade qu'on découvre de nos jours. On a au sol le tracé des vieilles rues médiévales et tout l'environnement autrefois était constitué par ces maisons à pignons de bois avec ces ruelles qui croisaient quasiment contre l'église toute cette première ville la plus ancienne qui ait existé ici. Et donc ce Paris-là va disparaître. Il faut aussi dire que c'est un Paris neuf avec des voies de communication, des artères, comme on dit aujourd'hui, les grands boulevards, les allées, les avenues. C'est un Paris qui va être doté d'institutions nouvelles, puisque je citais, en premier lieu Notre-Dame, la cathédrale. C'est à ce moment-là précisément que l'Hôtel-Dieu est installé là où nous le voyons aujourd'hui, un nouvel hôpital, c'est l'hôpital le plus moderne de France à l'époque, avec des dispositions qui n'existent pas à l'époque. Et puis, vous avez toute une série d'établissements, les nouvelles mairies, les places. Je devrais aussi dire que dans ce panorama, le loisir existe, puisque le projet de Napoléon III, c'est de construire en parallèle et ce nouvel Hôtel-Dieu que j'évoquais et le nouvel opéra. Alors, vous savez, la fin de la construction, en tout cas de l'opéra, se fait après la chute de l'Empire en 1870. Mais on découvre, et ceux qui suivent découvrent à ce moment-là, que le Paris que le baron Haussmann et l'empereur ont voulu, ce Paris, c'est un Paris qui va, perdurer pendant plus d'un siècle et demi. Autrement dit, ils nous ont donné une avance sur l'accroissement de la population urbaine, sur la multiplication des moyens de communication. Cette avance-là, elle a tenu jusqu'au milieu du XXe siècle.
On a trouvé des tramways et des omnibus.
Donc, on a complètement oublié ça. Ce n'est pas seulement la sécurité, comme on le dit souvent. Haussmann a permis aux gendarmes d'aller vite vers l'ennemi.
Vers les voleurs.
Mais non, il n'y a pas que ça. C'est vraiment une conception très moderne, très neuve de la ville, que l'un et l'autre ont voulu et surtout ont accompli. Alors évidemment, comme je le disais à l'instant, vous avez les destructions et les reconstructions qui se font au centre de la ville, mais vous avez aussi de nouveaux quartiers qui sont construits. Pour ne vous donner qu'un exemple, le boulevard Haussmann qui passe devant le musée Jacquemart-André, à l'époque n'existe pas, et cette zone, c'est une zone qui est quasi une zone, de limite de la ville, avec, on le voit vers l'extérieur, encore des terrains qui ne sont pas lotis. Donc on est dans la friche urbaine qui est à la limite de la ville. Et ça, aujourd'hui, quand on passe devant le musée Jacquemart-André, on n'imagine pas une seconde qu'en 1860, on est encore à la campagne.
Alors
et c'est la vérité.
En 80, par là, ou 90
En 90,
c'est devenu déjà le boulevard Haussmann qu'on connaît aujourd'hui.
Voilà, les maisons sont élevées, les immeubles sont là. Et derrière ces immeubles, il y a d'autres rues en parallèle, d'autres artères, et donc de nouveaux quartiers. Donc la ville a grandi, et vous vous souvenez, à la fin du Second Empire, c'est l'intégration des communes suburbaines qui constituent le nouveau Paris de l'époque. Donc cette transformation-là, elle est accomplie à ce moment-là, et elle a pour témoin, et c'est en cela que ça nous intéresse, les frères Caillebotte,
qui sont
et plus particulièrement
depuis
Gustave
leur balcon
Caillebotte.
Du boulevard Haussmann, ils voyaient toutes ces transformations sous leurs yeux, sous leurs pieds.
Ils ont tout vu et ils ont tout consigné.
C'est vraiment un témoignage extraordinaire et artistique et historique que vous allez nous révéler par le média de la radio. Donc voyons justement un peu le parcours des deux Caillebotte. Ils étaient donc orphelins assez tôt, enfin vers la trentaine. Ils ont perdu leur père et leur mère et leur frère. Ils étaient donc héritiers d'une certaine fortune, même on peut dire d'une grande fortune. Et ils partageaient les mêmes passions et les mêmes cercles d'amis. Ils étaient très proches toute leur vie.
Oui, c'est exact. Il y a un lien très fort qui existe entre les deux frères. Alors, on peut l'expliquer effectivement parce que le cercle familial s'est rétréci. Vous avez mentionné ces disparitions brutales et très proches des parents notamment, qui font que les liens entre les deux frères se resserrent. Mais si vous voulez, je crois qu'il y a, puisque nous allons évoquer les carrières artistiques de l'un et l'autre, je crois qu'il y a des choses passionnantes à souligner et qui montrent bien l'originalité de ces deux individus comme de ces deux artistes. Prenons le cas de Gustave Caillebotte, le peintre. Eh bien, il a, vous l'avez dit, grâce à la fortune familiale, la possibilité finalement de vivre de ses rentes. Je vais utiliser ce vilain mot, mais c'est la réalité. Donc, il n'a pas besoin de travailler pour vivre. Il peut utiliser les ressources dont il dispose. Et par conséquent, il a tout le temps de se livrer à des activités qu'on pourrait qualifier d'activités de loisirs. Donc, il décide assez tôt d'être peintre. Mais je voudrais être bien clair sur ce point en particulier. Il ne faut pas en conclure que parce qu'il n'a pas besoin de travailler pour vivre, parce qu'il a la chance d'avoir une fortune familiale, que cette activité artistique est pour lui une activité de délassement. Il prend les choses très au sérieux. Et comment, à l'époque, ne pas prendre les choses au sérieux autrement qu'en suivant les voies traditionnelles? Les voies traditionnelles, ce sont l'école des beaux-arts et l'apprentissage dans l'atelier des grands maîtres. Et c'est ce que fait Gustave Caillebotte. Alors, je le souligne parce que j'imagine que nous allons parler assez vite de ses relations avec les impressionnistes. Mais prenez le cas de tous ces artistes qu'il fréquente, Monet, Renoir et les autres, Pissarro, les Sisley, ce qui marque bien, au-delà de l'écriture artistique qui est la leur, ce qui marque bien la rupture avec les générations précédentes, c'est le fait que ces artistes-là se démarquent des voies d'apprentissage traditionnelles. De plus en plus, et à partir du modèle impressionniste, les artistes modernes vont décider assez tôt de leur vocation et surtout de ne pas suivre les modèles de chefs d'atelier, d'artistes qui seraient pour eux des modèles à suivre. Donc, on va découvrir quelque chose de très nouveau dans le paysage artistique parisien, c'est cette génération d'autodidactes. Donc, ce sont des artistes en rupture de banc, ils refusent complètement l'apprentissage de l'école des beaux-arts et des grands maîtres, et donc, ils s'installent dans une vie de bohème. Et vous voyez bien que Caillebotte, de ce point de vue-là, s'inscrit complètement en faux par rapport à ce panorama assez rapide que je viens de tracer. Et on pourrait en donner un autre exemple passionnant. Le fait que, par exemple, les contemporains de Gustave Caillebotte ne soient pas passés le plus souvent par les grands ateliers, le fait qu'ils n'aient pas voulu suivre la formation traditionnelle de l'école des beaux-arts, aboutit à une chose que l'on sait, mais qu'il faut pousser au bout. Comme ils n'ont pas commencé par le dessin, et comme ils n'ont pas commencé leur apprentissage en tirant le modèle, vous savez, comme on le faisait autrefois dans les académies, eh bien, l'usage du dessin préparatoire pour préparer la composition définitive est quelque chose qu'ils ne recherchent pas. Et pour revenir aux impressionnistes, si l'on dit que ce sont les peintres du moment, de l'impression, ça veut dire qu'ils fixent cette étincelle qui dure une seconde,
de l'instant,
au cours de laquelle un grand rayon de lumière balaye un paysage et que c'est ça qu'ils veulent montrer. Et pour ça, évidemment, ils n'ont pas besoin de l'étude du croquis. Or, Gustave Caillebotte, c'est toujours le peintre qu'il va certes chercher le modèle à l'extérieur, mais que fait-il ? Eh bien, il fait des croquis, encore des croquis, il trace des dessins, il travaille ses esquisses, il rentre à l'atelier, il reprend tout cela, et petit à petit, il élabore une composition qui va devenir ensuite ce que nous allons découvrir sur le tableau. Mais il y a ce long travail préparatoire que Gustave Caillebotte a toujours fait. Et ça, si vous voulez, on voit bien que de ce point de vue-là, il est à part, puisqu'il ne va pas suivre les exemples que lui donnent ses amis impressionnistes.
Comme un Renoir,
voilà,
ou un Monet.
Voilà. Donc c'est très particulier, et on peut dire d'une certaine façon que pour Martial Caillebotte, qui est le photographe, c'est la même chose. Vous avez souligné à juste titre qu'il s'était fait connaître d'abord comme compositeur musical et interprète. Eh bien, il a lui aussi suivi les voies traditionnelles, c'est-à-dire qu'il est entré comme élève au conservatoire de musique et qu'il a suivi tous les degrés. Donc, pas du tout de rupture, pas de, comment dire, d'opposition brutale, esthétique ou idéologique avec les maîtres en place.
Ils sont quand même issus de la grande bourgeoisie aussi.
Voilà, voilà.
Leur éducation devait être classique.
Oui, en même temps, on sent que ce sont des gens qui, justement, savent avec beaucoup d'aisance se glisser dans ces mondes nouveaux et tenter des expériences nouvelles. Alors, je crois que c'est une position très originale et qu'il est important, au début de notre conversation, de le souligner. C'est d'autant plus important qu'on doit évoquer un deuxième phénomène qui est tout aussi passionnant, l'idée que Gustave Caillebotte n'ait pas besoin de vendre ses tableaux pour vivre va l'amener tout simplement à stocker ses œuvres. Il ne va quasiment jamais chercher à les vendre. Il les expose parce qu'il a envie de se faire reconnaître comme artiste et de plein pied, mais il ne cherchera jamais à vendre. Donc il ne va pas voir les grands marchands, Durand-Ruel et les autres, et il garde ses tableaux.
C'est
et tenez,
au contraire lui qui collectionne encore
voilà.
l'œuvre.
Et tenez-vous bien,
de
encore aujourd'hui,
amis.
On peut considérer que près de 70 à 80% de sa production est conservée chez ses descendants. Et pour une raison simple, c'est que Ce besoin de vendre pour vivre n'a jamais existé dans cette famille. Ils ont eu cette chance formidable. Et aujourd'hui, les descendants, il faut les remercier, il faut les saluer, ont gardé ce trésor. Et comme ils le font aujourd'hui à Jacques Marandré, ils le mettent à notre disposition de façon à ce qu'on puisse justement préciser le rôle et de l'un et de l'autre.
Oui, justement. Alors parlons de l'un et de l'autre. On n'a pas encore beaucoup évoqué Martial, qui est donc son cadet.
Absolument.
Est-ce qu'on peut voir un petit peu leur vie familiale,
si vous voulez,
par exemple leur caractère aussi, leurs affinités ou au contraire leurs différences entre
l'un et l'autre ? On a malheureusement assez peu de documents parce qu'il semblerait que la famille était très discrète de ce point de vue-là. Alors, on connaît d'ailleurs, les choses ont été étudiées par exemple par les historiens de l'art qui ont étudié des correspondances échangées entre Gustave Caillebotte et Renoir. Les choses sont bien connues.
Oui.
Mais y a-t-il des lettres qui ont été échangées entre les deux frères ? Est-ce qu'on a un journal de bord qui nous permettrait de connaître les états d'âme ou alors les questions que l'un posait à l'autre ? Malheureusement, non. Malheureusement, non. Mais alors, on peut s'appuyer sur un certain nombre de faits qui sont avérés et notamment l'idée que très tôt, ces deux garçons, ces deux frères habitent ensemble. Alors, ça peut paraître très surprenant. Ils vont habiter ensemble à Paris, dans deux appartements, donc en commun. Et puis, ils vont acheter ensemble une propriété. Alors, dans le patrimoine familial, ils ont reçu la propriété que leur père avait achetée dans le petit bourg de Hyères. C'est une propriété qui existe encore de nos jours, qui a été rénovée magnifiquement et que l'on peut visiter. Donc, malheureusement, cette propriété est vendue. Alors, pourquoi ? On ne sait pas exactement. Est-ce qu'ils avaient envie de faire leurs preuves par eux-mêmes ? Peut-être. On peut peut-être l'imaginer. Et donc, assez vite, toujours, Gustave et Martial Caillebotte vont acheter ensemble une deuxième propriété qui est le Petit Gennevilliers, un autre domaine où ils vont se mettre à l'aise et retrouver tout ce qui constitue leur vie. Alors là, il y a des choses...
Au bord de l'eau, au bord de la Seine.
On est au bord de l'eau. Je vous rappelle que le Petit Gennevilliers n'est pas éloigné d'Argenteuil et que l'on est dans un lieu typique de l'impressionnisme. Donc, c'est vu que Monet, très tôt, dans les années 71-72, a traité du pont d'Argenteuil ou des régates sur la Seine. Ce sont également ces vues que Gustave va traiter quelques années plus tard. Mais pour préciser les choses et que nos auditeurs puissent imaginer un petit peu dans quel monde ces deux frères vivaient, il y a une chose très étonnante que les deux frères partagent encore, c'est la passion du jardinage et de l'horticulture. Alors déjà, il l'avait expérimenté dans le domaine de Hyères, mais au Petit Gennevilliers, alors on a des photographies de Martial qui montrent les grandes serres dans lesquelles il cultive et élève les plantes et les fleurs. Et puis ensuite, on voit les parterres et les allées qu'il travaille et qu'il développe tous les ans pour avoir les ensembles fleuris les plus magnifiques. Donc ça, c'est une autre passion qu'ils partagent en commun. Et puis encore autre chose de très étonnant et qui explique le choix de cette installation au Petit Gennevilliers, parce que ne l'oublions pas, de l'autre côté de la Seine, alors vous avez un côté sur lequel vous avez encore ces villas et ces domaines qui sont des lieux de fin de semaine. Et puis de l'autre côté, et ça va se développer jusqu'à Saint-Denis évidemment, vous avez la ville industrielle, hein, c'est-à-dire vous avez les grands établissements, les usines, et on voit, on a dans l'exposition un très beau tableau de Gustave Caillebotte qui nous montre justement en face de la propriété, il y a une usine avec la grande cheminée qui monte jusqu'au ciel.
Donc ils assistent voilà. Aussi à la transformation industrielle.
Absolument.
Autour de Paris.
Et donc pourquoi ont-ils accepté cet environnement ? Eh bien pour une raison incroyable, c'est que l'un et l'autre partagent une nouvelle passion. Et ce sont des gens, comment dire, qui font figure de grands bourgeois sages. Et en réalité, ce sont des gens qui ont des passions qui les dévorent totalement. Et Gustave et Martial Caillebotte s'adonnent au canotage. Et même, ils vont beaucoup plus loin que cela, puisque Gustave, très vite, devient l'architecte qui dessine les plans des bateaux qu'il fait construire, alors là, tenez-vous bien, c'est quand même un cas d'espèce assez extraordinaire. Que trouve-t-on à côté du domaine des frères Caillebotte ? On trouve un chantier naval.
Oui, c'est absolument extravagant.
Mais ce chantier naval...
À côté des fleurs...
Voilà, ce chantier naval leur appartient. Et parce que Gustave, lorsqu'il a fait les plans du roast beef, par exemple, va les envoyer...
Un bateau, je signale à nos auditeurs.
À ses ouvriers. Il va les envoyer à ses ouvriers qui vont construire le bateau qui aura pour nom roast beef. Et avec ce bateau qui est un bateau de régate, magnifique, hein, on a les plans, on a des photographies que Martial prend et qui nous montrent ce voilier magnifique. Que fait-il ? Il régate contre nos amis anglais. Et évidemment, il est très content, vous l'imaginez, lorsqu'il remporte ses courses. Et à ce titre, il devient l'un des membres d'honneur du Yacht Club de Paris. Donc, vous voyez, c'est ce monde-là que les deux frères Caillebotte vont traverser. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette vie, on peut dire qu'elle va s'interrompre. On peut dire qu'elle s'interrompt à partir de 1890. Pourquoi ? Eh bien, parce que Martial Caillebotte va épouser une jeune fille et que désormais, il va mener sa vie de famille avec elle. Il aura plusieurs enfants, donc un garçon et une fille notamment. Le garçon va mourir très tôt et c'est par cette lignée, cette fille, que les descendants vont apparaître et qu'ils vont conserver l'héritage artistique laissé par les deux frères.
Mais Gustave reste quand même très proche, même des enfants.
Naturellement,
fait l'oncle.
Absolument. Non. Les liens existent toujours. Simplement, ce qu'on peut dire, ça, je ne fais que répéter ce que les membres du comité Caillebotte et son président, dans les ouvrages qu'ils ont rédigés justement pour rappeler le parcours des deux frères et notamment de Gustave, ont bien souligné, c'est que, semble-t-il, la famille Minoret, qui est la belle famille, s'inquiète un petit peu de voir notamment Gustave fréquenter Renoir encore, devient presque un artiste, comment dire, convenable. Mais derrière lui, il y a des gens qui sont pas fréquentables. Alors, ils essayent de détacher Martial de cette vie-là. Donc voilà, mais en réalité, les deux frères vont toujours se voir. Alors malheureusement, Gustave Caillebotte va mourir en 1894.
Très jeune, à 46
voilà.
ans.
Voilà, donc en effet très jeune et en même temps... Lorsqu'on regarde, vous savez, nous avons plusieurs autoportraits qui sont présentés dans l'exposition. On a le sentiment que c'est un homme qui vieillit très vite, qui est, je ne sais pas comment vous dire, ou fatigué ou usé par la vie. Et par conséquent, peut-être que ceci explique cela. En tout cas, il meurt jeune. Et évidemment, à partir de là, Martial, se concentrera sur sa propre famille.
Et son œuvre.
Et son œuvre, bien
photographique.
Sûr. Photographique, puisque... On le sait, et ça a été une des découvertes importantes de l'exposition. J'aimerais revenir sur ce point en particulier. On s'est aperçu que Martial commence à photographier seulement à partir de 1890. 1890, c'est 4 ans avant la mort de Gustave. Et quand on rappelle que Gustave Caillebotte commence à peindre en 1875, vous comprenez que le principal de son œuvre est déjà réalisé. Alors, il faudra en tirer les conséquences. Je pense que
oui,
on y reviendra tout
sûr,
à l'heure.
De l'œuvre de l'un et de l'autre deuxième partie, justement. Alors, je vous propose une petite pause musicale, si vous voulez bien. Et puis tout à l'heure, donc, on va concentrer notre regard sur l'œuvre des frères Caillebotte.
Le dauphin et le ventre à la table, et dans 1000 pour plein de vin des lectables. Ainsi comme ma poulet, je ne me laisserai mourir de la pépite. Quand on devrait avoir la face cramoisie, quand on devrait avoir la face cramoisie, et le nez violet. Et le nez violet, la face cramoisie, et le nez violet. Quand mon nez deviendra de couleur, où je perce, porterai les couleurs que chérit ma maîtresse. Le vin rend le tabou. Vaut-il pas mieux avoir la couleur rouge et vive, et chez des bourrubis que si pâle et chétive. Ainsi qu'un buveur d'eau. les folies l'eau du moins en beuverie. De peur que je ne tombe en une hydropisie. Je me perds si j'en bois. Je me perds si j'en bois. En l'eau ni à saveur. Prendrai-je pour breuvage ce qui n'a point de goût?
Quoi? Quoi?
Mon voisin qui est sage ne le fait que je crois.
Voilà, vous venez donc d'entendre une composition rare de Martial Caillebotte. Et donc cette émission nous a donné l'occasion également de découvrir sa musique. Mais nous allons parler bien sûr du photographe. Mais avant, on va parler peut-être du Gustave parce que
s'il
est
voulez,
un peu plus
oui,
connu.
Le...
Donc on va voir son œuvre d'un peu plus près. Il est donc rattaché aux impressionnistes. On le qualifie volontiers d'original ou d'audacieux. Vous allez peut-être nous dire sa particularité, son apport par rapport justement aux artistes que vous avez évoqués dans la première partie. Comme son grand ami Renoir, Cézanne, Monet, Pissarro, Sisley et d'autres. Donc, en quoi peut-on le singulariser, Nicolas Saint-Fagarnon ?
Alors, il faut peut-être que je revienne un petit peu sur le passé et que je vous rappelle qu'en 1994, le musée d'Orsay organisait aux Galeries du Grand Palais une exposition sur Gustave Caillebotte. C'était la première exposition rétrospective jamais faite en France et dans le monde, je crois, sur ce peintre, sur cet artiste. Cette exposition est ensuite partie aux États-Unis. Voilà, c'était le moment d'une grande découverte, puisqu'on s'est aperçu ce jour-là que le nom de Caillebotte, qui était seulement associé à un scandale dont on reparlera plus tard, correspondait aussi à une œuvre picturale de la plus haute importance. Donc, dans le cadre de notre exposition, nous avions une ambition qui était de confronter le photographe et le peintre, et je vous expliquerai pour quelles raisons particulières nous souhaitions justement susciter ce vis-à-vis. Mais ce qui était très important pour nous, justement, c'est de montrer, au fond, les caractères les plus originaux de cet artiste. Alors, comment peut-on les résumer ? Eh bien, si on prend les tableaux du tout début de sa carrière, ceux que nous découvrons aux alentours des années 1875-76, et je pense en particulier à deux tableaux, les peintres en bâtiment et puis le déjeuner. Ces deux tableaux sont très étonnants parce que lorsque l'on considère comment ils sont réalisés, on s'aperçoit que ce sont des tableaux qui insistent sur la dimension horizontale dans les deux cas. Et d'ailleurs, si je vous donne ces exemples, je pourrais les répéter, les multiplier pour bien d'autres compositions qui appartiennent à cette période. Des tableaux qui sont plutôt, comment dire, écrasés. La proportion entre la hauteur et la largeur va largement en faveur de la largeur. Mais ce qui est très étonnant, c'est que lorsqu'on regarde ce qui est à l'intérieur du cadre, on s'aperçoit qu'il y a une profondeur qui est tout aussi grande. Et ça donne un espace, comment dire, fictif, mais que l'œil perçoit, qui est beaucoup plus grand que ce que représente la réalité. Alors, quand je vous donne l'exemple des peintres en bâtiment, eh bien, vous avez dans ce quartier moderne, nouveau, autour des grands boulevards, créé par le baron Haussmann, vous avez probablement une grande rue, ça pourrait être la rue Lafayette, qui vient d'être tracée, puis lotie avec des bâtiments de part et d'autre. Et là, on est quasiment au bout de la construction, c'est-à-dire que vous avez les peintres en bâtiment qui sont en train de décorer la façade d'une boutique. Et vous voyez cette fuite dans le fond de la composition absolument incroyable. Et de cette façon-là, vous avez un équilibre qui se fait entre les différentes dimensions. Mais je le répète, quand vous regardez le tableau de l'extérieur, vous apercevez que ce tableau, c'est un tableau qui est beaucoup plus large que haut et profond. Si vous prenez maintenant le déjeuner, alors ça n'est plus un extérieur, mais c'est un intérieur. Mais après tout, c'est aussi l'intérêt de la peinture de Gustave Caillebotte, c'est de nous montrer les immeubles du dehors ou du dedans. Et là, nous sommes très précisément chez les Caillebotte. Et vous voyez la salle à manger des Caillebotte avec Madame Mère qui est au fond de la pièce. Elle est assise à table et elle a à sa droite son majordome qui lui présente un plat.
C'est à première vue assez naturaliste, on pourrait dire.
Voilà, alors c'est très intéressant et vous avez raison de prononcer ce mot. On pourrait presque parler de peinture réaliste. Hein, ce sont des scénettes. Le dehors, nous avons vu les peintres en train de terminer leur décoration. Et ici, c'est tout simplement un moment simple dans la vie de la famille, c'est le déjeuner. Vous voyez que sur la droite, vous avez l'un des frères de Gustave, déjà à table et en train de manger. Tandis que sur le devant de la composition, vous découvrez avec stupéfaction une soucoupe volante. Alors, je m'explique, ça n'est évidemment pas une soucoupe volante, c'est une assiette, mais au lieu d'être à plat, vous avez vraiment le sentiment qu'elle est levée. Et c'est pour ça que j'essaye d'imager la définition en parlant de soucoupe volante. Et à droite de l'assiette, vous avez un couteau, et de la même façon, le couteau est dressé. Et on se dit, mais enfin, comment est-ce possible? Alors, est-ce que, comme Monet, Gustave Caillebotte avait une déformation de l'œil qui lui faisait voir les choses de travers? Il y a une hypothèse qui a été avancée très tôt, et notamment autour de la grande exposition que je citais en 1994. Cette hypothèse, c'est que Gustave Caillebotte a été influencé par la photographie. Ici, l'image que vous avez, c'est une image qui est prise au grand angle. Et on s'était dit, mais voilà, Caillebotte a certainement vu des photographes et il a certainement été influencé par cette façon nouvelle de représenter des scènes. Et voilà pourquoi il a choisi ce point de vue qui est tout à fait nouveau et différent de celui qui était pratiqué aussi bien par les peintres traditionnels que par les peintres impressionnistes. Ni les uns ni les autres ne proposent des vues, qu'elles soient intérieures ou extérieures, qui ont cette apparence-là.
Donc en cela, il est tout à fait révolutionnaire.
Il est totalement révolutionnaire. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui lui appartient en propre.
Le déjeuner que vous avez donc merveilleusement bien décrit, il a été composé en 1876.
Voilà, c'est donc
la photographie a été créée genre dans
alors
les
attendez,
années 40.
La fin des années 40, la photographie existe depuis déjà un certain temps. Alors, vous allez m'amener à déjà dévoiler un certain nombre de secrets que je voulais garder encore quelques minutes. Mais non, mais ça n'est pas grave du tout. L'une des conclusions, je l'ai dit tout à l'heure, auxquelles les spécialistes étaient arrivés en 1994, c'est que Gustave Caillebotte avait été influencé par la photographie pour le calage de ses compositions. Et donc, puisque nous avions la chance d'avoir un photographe dans son environnement et que ce photographe a fait les mêmes sujets que son frère peintre, nous avions là l'occasion, comment dire, rêver de pouvoir vérifier si, oui ou non, nous retrouvions cette influence. Et le travail a été fait par une des élèves de M. Lemoine, qui était donc le co-commissaire de l'exposition, ancien directeur du musée d'Orsay. Donc, vous le comprenez évidemment tout à fait à sa place et dans sa compétence pour traiter ce beau projet. Donc, son élève, Gabriel Andriès, a étudié toute l'œuvre photographique. Et l'une des conclusions auxquelles elle est arrivée, qui évidemment est un peu surprenante, c'est que les photographies de Martial Caillebotte sur les mêmes thèmes que ceux traités par son frère Gustave l'ont été 10 ans à 15 ans après les peintures. Autrement dit, il ne peut pas y avoir d'influence de la photographie sur la peinture, en tout cas d'influence de Martial sur Gustave. Et pour aller encore plus loin, on a pu vérifier ce qui n'était pas possible, je le répète, en 1994, on a pu vérifier que le grand angle n'était pas utilisé au moment où Gustave peignait. Autrement dit, il n'a pas pu voir des photographies prises avec ces déformations que je signalais pour s'en inspirer. Donc, la conclusion qui s'impose, c'est que cette composition, ce choix de composition si particulier, c'est un choix qui lui appartient pleinement et c'est en ce sens que Gustave Caillebotte est un artiste profondément novateur. Alors, ça me permet de dire quelque chose, je crois, d'assez important, c'est que Gustave Caillebotte, donc faisant ses choix de composition, cale dès ce qu'on pourrait qualifier d'histoire. Revenons à nos amis impressionnistes. Ils sont attachés à une nouvelle vision de la nature. Ils sont attachés à la peinture de plein air. Ils vont planter leur chevalet sur les pelouses, dans les prés qui entourent l'Île-de-France. Et ce faisant, ils composent des visions où leur intérêt se porte essentiellement sur la lumière et sa vibration, sur la vibration lumineuse. Donc, ils ne s'intéressent pas et ils ne nous montrent pas le plus souvent des personnages, des protagonistes dans une action donnée, alors que Gustave Caillebotte le fait. Et c'est bien la raison pour laquelle les critiques qui sont allées aux expositions impressionnistes ont regardé ces tableaux, ceux qui appartiennent à la période 1876 et les années suivantes, et qu'ils ont dit la chose magnifique que je vais vous rappeler. Ils ont dit, bon, ce Caillebotte ne sait pas peindre, c'est déplorable. Pourquoi ? Parce que ces effets de perspective, ces distorsions, soit dans la longueur, soit dans le raccourci, ça ne leur plaisait pas. Et ils ont dit, sans savoir qu'ils se trompaient, Caillebotte n'a pas appris la peinture à l'école des Beaux-Arts. Vous voyez, comme quoi on peut se tromper. Mais ils ont aussi fait une réflexion et des remarques passionnantes. Certains d'entre eux ont dit quand même, dans plusieurs des tableaux que nous montre Caillebotte, il y a une vision moderne de la ville, à la fois dans la technique réaliste, vous l'avez dit vous-même, dans le choix des sujets, ce sont des choix modernes, montrer des peintres en bâtiment qui sont en train de décorer une façade, ça n'est pas un sujet d'histoire comme on le concevait à l'école des Beaux-Arts. Montrer un déjeuner dans son intérieur, là encore, ça n'est pas une façon prestigieuse de montrer un festin dans lequel je ne sais quel empereur romain se serait signalé par une action mémorable. Vous voyez, les choses sont dans le sens du quotidien, mais un quotidien qui est vraiment inspiré. Et ça, c'est, je crois, la grande leçon que nous devons tirer de l'œuvre de Caillebotte. En ce sens, il a, à mon avis, certainement su tirer la subtilité dans sa peinture, tirer la subtilité de ces scènes qui jusqu'alors n'avaient pas été traitées. C'est un artiste qui a su approcher la réalité de cette vie moderne, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, avec ses personnages, ses interprètes, ses protagonistes.
Et aussi, comme vous venez de l'évoquer tout à l'heure, avec cette invention à chaque fois, dans chaque tableau, et très très souvent, on trouve cette plongée vertigineuse parce que le balcon a une grande importance dans son œuvre et il voit la rue sous ses pieds.
Vous avez raison de me rappeler à ce que je dois faire. Non seulement il y a ces vues en perspective très profondes qui sont surprenantes, vous avez évidemment raison de rappeler que le plus surprenant, et nous le découvrons dans l'exposition, c'est vues en plongée. Et là encore, si vous voulez, on ne sait pas d'où elles viennent. Avant Caillebotte, ça n'existe pas. Après lui, il y en aura, mais on sait très bien qu'il en est l'inventeur. Alors que montre-t-il ? Des personnages au balcon. Le balcon, c'est un équipement, là encore, qui appartient à l'architecture haussmannienne. Les balcons qui parcourent toute la façade, ça n'existait pas avant les constructions haussmanniennes. Et là, vous en avez, donc naturellement, les gens se portent volontiers à passer quelques moments après le déjeuner, par exemple, dehors, sur le balcon. Et là, nous voyons plusieurs tableaux qui présentent des personnages qui regardent vers le bas. Donc, vous avez à la fois la représentation des acteurs, ceux qui sont sur les balcons et qui regardent en bas, mais vous avez le plus étonnant, vous avez le résultat de leur regard, puisque vous avez le refuge où vous avez le trottoir du boulevard Haussmann qu'on découvre comme s'ils étaient vus de haut. Et évidemment, la scène est vue en raccourci puisque vous êtes tout à fait au-dessus. Alors, les passants qui sont en bas sur le boulevard, vous les voyez comme des taches. Vous ne voyez que le chapeau quand il s'agit d'hommes ou le bonnet ou le foulard lorsqu'il s'agit de femmes, et on ne voit plus que des figures géométriques, un point, une tache. Vous voyez le banc qui est sur le trottoir et vous voyez surtout la grille qui entoure l'arbre en fer forgé. Et tous ces motifs prennent un caractère purement abstrait qui est très, très étonnant.
Dans les boulevards vus d'en haut,
voilà.
Notamment, oui.
Donc ça, là encore, on est encore plus loin dans l'originalité. On a même dit qu'on pouvait avoir ici peut-être l'amorce de visions qui vont conduire plus tard à des expérimentations qui sont celles de la peinture abstraite. En tout cas, ces tableaux sont évidemment des tableaux à leur époque, au moment où ils sont réalisés, toujours dans ces années 1876-78. Ce sont des tableaux qui sont proprement révolutionnaires, puisque jamais vus, jamais faits.
En effet, c'est tout à fait étonnant ce qui se cache avec un regard approfondi que nous pouvons avoir grâce à vos explications savantes et ô combien intéressantes. On a très bien compris en quoi notre Gustave Caillebotte est original et audacieux.
Très audacieux.
Comme il est souvent qualifié.
Alors, je crois que ce qu'il faut aussi souligner, ce qui est très intéressant dans l'exposition, c'est qu'on voit que, au fond, vous avez dans ces années 1875-1880, il y a une phase de production chez Gustave Caillebotte qui est d'une intensité extraordinaire avec ses visions tout à fait modernes qui étonnent tellement, tellement elles sont audacieuses, comme vous l'avez souligné. Et puis, on peut dire que dans les années qui suivent, il y a une espèce de temps calme qui s'installe. On ne voit peut-être plus autant d'audace chez lui. Et puis, vers 1885 et jusqu'aux dernières années, mais autour des années 1890, Caillebotte va repartir de l'avant et dans ses compositions, il va imaginer de nouvelles façons de peindre. Et si vous voulez, moi, c'est une des leçons que je retire de cette belle expérience qui nous a été proposée. C'est qu'aussi bien, d'ailleurs, dans ses vues des jardins de Hyères ou des jardins du Petit Gennevilliers, il y a chez Gustave Caillebotte quelque chose de très étonnant. Petit à petit, il va prendre, comment dire, l'allée de jardin pour ce qu'elle est. Et puis, il va concentrer son regard, il va s'arrêter sur une plate-bande, et puis même, il va aller beaucoup plus loin, c'est qu'il va prendre simplement un motif, deux, trois fleurs, et il va le traiter simplement comme tel. Et il y a un moment donné où on se demande si, et je pense en particulier à un tableau qui représente des capucines, il y a à la fois la couleur, il y a d'une certaine façon le caractère synthétique de la forme. Et puis en plus, ce qui est très étonnant, il y a le jeu linéaire, puisque les tiges des fleurs sont également très soulignées et sensibles. Et ceci nous amène à parler de quelque chose qui est dans les années 90. Alors je ne vais pas dire que Gustave Caillebotte innove, mais qu'en tout cas, il est certainement influencé, mais il va le traiter à sa manière par ce qu'on appelle le courant japoniste. Et donc, il a une vision et par conséquent, il a des compositions, des peintures qui se développent comme elles ne l'avaient pas fait auparavant. Et c'est très important pour moi parce que ça permet de vérifier que Caillebotte est un artiste qui évolue et que cette évolution, si vous voulez, au fond, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle lui permet peut-être d'aborder des styles différents, mais que ça ne nuit pas à l'unité de son œuvre. Et moi, je ne sais pas parler autrement de ces interprètes qu'en disant ben, « c'est évidemment un grand artiste ».
Et une fantastique évolution, toujours dans cette continuité de recherche.
Voilà.
Et on sent une intériorité très forte.
Voilà. Donc, je pense que c'est important de le dire parce qu'au fond, ça le remet à sa place. Et aussi, ça permet de dire que son amitié avec les impressionnistes ne l'a pas empêché au début de faire une peinture qui n'avait rien d'impressionniste. Et son amitié avec les impressionnistes ne l'a pas empêché de faire après des choses qui n'avaient plus rien à voir avec les impressionnistes. Et je trouve que ce parcours-là est magnifique.
Oui, et puis évidemment, on peut évoquer, pour compléter l'œuvre très rapidement, toute la série Au bord de l'eau, vers la fin de sa vie quand il...
Oui, enfin, c'est pas seulement à la fin, c'est dans les années 80. Mais le contexte, c'est celui des grandes propriétés de bord de l'eau, en effet. Et à cette occasion, Gustave Caillebotte interprète les joies et les plaisirs de cette vie moderne avec des activités de délassement.
Et ces régates. Et,
les régates, la pêche, le canotage.
Les baigneuses ou voilà, les baigneurs.
Voilà. Donc, si vous voulez, tout ça, toutes ces activités qui ne sont pas des activités évidemment professionnelles, hein, pas du tout, et qui montrent au fond. Après la peine de la semaine, eh bien, vous avez ces récompenses qui interviennent enfin le samedi et le dimanche, où on peut penser autour de sa famille à des joies très simples et des activités physiques, sportives, qui sont tout à fait nouvelles. Et ça donne aussi chez lui, c'est une espèce de joie de vivre hein, dans les peintures de cette période, qui aussi est intéressante parce qu'elle se distingue étrangement de l'espèce de forme de solitude qu'on rencontrait dans les premiers tableaux. Il y a une espèce d'isolement qui peut être ressenti quand on regarde, je reviens encore, les peintres en bâtiment ou le déjeuner. Ces tableaux inspirent une espèce de repli sur soi. Regardez par exemple le déjeuner, Madame Caillebotte se fait servir, le frère a déjà attaqué son plat, ce qui est assez sidérant parce que réfléchissez, dans une bonne famille, on attend que la maîtresse de maison ait commencé avant de commencer soi-même son repas. Et là, on voit clairement que le frère ne se préoccupe pas du tout de sa mère. Il a son plat qui est dans l'assiette et il commence à déjeuner. Et puis aussi se vide la place de Gustave Caillebotte, évidemment, elle est vide.
Et avec votre soucoupe, avec cette image de la soucoupe, voilà. C'est quand même extraordinaire, ça vous rend votre regard beaucoup plus exigeant parce qu'on voit a priori une assiette, mais on n'a pas encore vu, avant de vous avoir écouté, la soucoupe.
Voilà, alors tout ça...
Mais on pourrait dire encore pendant des heures, on pourrait encore plonger notre regard dans l'œuvre de Gustave qu'on découvre grâce à cette exposition et grâce à vos dires. Mais on va peut-être voir maintenant Martial.
Bien sûr, bien
parce qu'il y a une raison très particulière.
Alors,
racontez-nous quelle est la raison en fait de cette confrontation entre les deux.
On va revenir à deux, trois points d'histoire. Je vous disais tout à l'heure qu'une grande partie des tableaux est encore conservée dans la famille de Gustave Caillebotte. Et de la même façon, d'ailleurs, les photographies de Martial sont aussi conservées par les descendants. Et c'est cette famille qui a demandé au conservateur d'Orsay d'organiser cette grande manifestation que j'évoquais en 1994, qui a été le départ de la redécouverte de Gustave Caillebotte et de son œuvre. Et donc, pourquoi ? Tout simplement parce que c'était le centenaire de la mort de Gustave Caillebotte le peintre, 1894-1994. Donc, la première exposition Caillebotte a eu lieu parce qu'elle était marquée par le centenaire de la mort, c'est la commémoration du centenaire de la mort de Gustave Caillebotte. Et donc, de la même façon, les descendants, les membres de la famille, sont venus nous voir en nous disant « Martial Caillebotte est mort en 1910 ». Et nous serions extrêmement heureux si nous pouvions organiser une exposition commémorative autour de son œuvre. Alors, ça nous a évidemment beaucoup intéressés. On a découvert, on connaissait quelques photographies de Martial Caillebotte, mais personne ne savait, au fond, avant cette exposition, l'importance de son œuvre et ce qu'il avait fait. Donc, nous sommes intéressés à la question, mais nous avons pris un peu de retard. Je dois m'en excuser, c'est la raison pour laquelle l'exposition a seulement lieu en 2011. Enfin, considérez qu'elle est quand même marquée par le centenaire et la commémoration de la mort de Martial Caillebotte en 1910. Alors, nous avons fait remarquer aux membres de la famille que ça serait vraiment intéressant de ne pas faire une exposition seulement sur les photographies de Martial, même si l'opportunité nous en était donnée, mais de profiter de cette occasion pour mettre en regard les peintures de Gustave et les photographies de Martial, parce que ça nous permettait de résoudre la question que j'ai déjà évoquée, cette question qui était restée en suspens à la fin de l'exposition de 1994. Est-ce que, oui ou non, il y a eu influence de la photographie sur la peinture ? Et donc, c'est en préparant l'exposition que, petit à petit, nous avons découvert la vérité, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a un décalage chronologique entre l'œuvre peinte et l'œuvre photographique. Mais ça n'a pas empêché notre volonté de réaliser ce vis-à-vis parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, la vie, l'intimité des deux frères, qui est le titre de notre exposition, c'est quelque chose qui est totalement fondé, qui est prouvé par quantité de détails de vie et qui rendait cette confrontation à nouveau passionnante. Et donc, dans chaque salle, en suivant un thème après un autre, nous avons essayé de montrer comment l'un avait, avec les moyens de son art, le pinceau ici, et l'autre, le sien, c'est-à-dire l'œil de l'appareil photographique, chacun avait essayé de saisir ces moments qu'ils ont partagés en commun.
Donc, il était, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, d'abord pianiste et compositeur. Oui. Nous avons d'ailleurs eu un très bel exemple tout à l'heure pendant notre pause. Et comment a-t-il découvert l'art de la photographie ? C'était quand même encore relativement nouveau. C'était d'abord peut-être un violon d'Ingres,
oui,
ou un caprice de Nandi ou...
Non, il ne faut pas dire ça. En réalité, et c'est très amusant, j'évoquais tout à l'heure la belle famille, la famille Minoret. Il y a dans cette famille un des membres qui pratique déjà la photographie. Et parce que Martial Caillebotte épouse cette jeune fille, il va... Évidemment, il a entendu parler de la photographie, mais il a sous les yeux l'un de ses beaux-frères qui pratique la photographie. Et tout d'un coup, ça va le passionner. À partir des années 1890, donc, il va acheter un appareil, il va acheter un trépied, et lui-même va se mettre à donc poser son appareil et faire ses photographies. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, je le disais tout à l'heure, au fond, il va reprendre les mêmes points de vue, il va reprendre les mêmes sujets, les mêmes compositions que celles traitées par Gustave quelques années auparavant. Donc, il va revisiter ces thèmes traités en peinture, il va les revisiter par la photographie. Et ce qu'on voit, alors c'est assez intéressant parce que il y a une recherche de la lumière dans toutes les scènes qui sont des scènes d'extérieur. Et puis alors, il y a quelque chose, moi, qui me touche beaucoup, et je le dis parce que je pense qu'il ne faut pas hésiter à laisser parler son cœur dans ces cas-là. Je trouve que chez Martial Caillebotte, il y a un regard qui est porté sur les êtres qui composent sa famille qui est extrêmement touchant. Si vous voulez... Que représente dans les familles aisées la photographie à cette époque ? Vous l'avez dit, c'est un hobby. C'est très amusant, c'est à la mode, c'est nouveau, alors chacun essaye de le pratiquer. Et que fait-on ? On pose l'appareil dehors, on appuie sur la poire, et puis le cliché est pris. Lorsqu'il sera développé, on voit un monument. Alors nous en avons quelques-uns dans l'exposition. Notamment, vous savez, des choses qui sont très amusantes, puisqu'il s'agit des bâtiments de l'exposition universelle. Et vous comprenez bien que l'exposition universelle, elle a été montée avec des architectures temporaires, et à la fin de l'exposition, on a tout démoli. Vous avez des témoignages, là, qui sont très utiles. Alors, bien sûr, il n'y a pas que Martial Caillebotte à avoir fait ses vues de l'exposition universelle. Mais enfin, c'est quand même très intéressant. Donc, on appelle ça tout simplement des vues documentaires. Donc, en ce sens, on ne peut pas dire que Martial Caillebotte se distingue beaucoup des autres photographes qui existent autour de lui. Mais il y a quelque chose que je trouve tout à fait remarquable, et on rencontre ça également chez Gustave. Il y a ces photos de groupe où on voit les différents membres de la famille. Il y a ces photographies d'enfants et d'enfants qui jouent ensemble, qui sont très touchantes. Et on se dit certainement que si le photographe a fait ce choix, c'est qu'évidemment, il n'était pas insensible à ce qu'il avait sous les yeux. Et je crois que là, il a su percevoir cette relation très, très intime qui existait entre les personnages qu'il nous montre et qu'il l'a parfaitement réussi. Il a peut-être su ici dégager dans la photographie, après tout, ce qui n'était pas si fréquent à l'époque, ce sentiment de l'humain qui est très étonnant. Alors, vous savez, quand on regarde les professionnels, puisqu'il faut quand même évoquer les grands portraitistes comme Nadar et les autres, ce sont des photographes qui se spécialisent dans le portrait officiel, un peu comme il existe aussi des portraitistes en peinture. Mais ils nous rendent l'être social, essentiellement. Et ce que je trouve magnifique, c'est que dans les photographies de Martial Caillebotte, il y a tout simplement le regard qui est porté sur un proche et avec l'affection qu'on lui porte. Et ça, je trouve que ça transparaît de ces petits clichés en noir et blanc.
Mais une autre photo qui est absolument sublime, on peut dire, le mot, qui est Gustave Caillebotte et Bergère, son chien, sur la place du Carrousel.
Voilà, c'est la traversée d'une grande place.
Avec un jeu de lumière et le Louvre au fond qui est absolument magnifique.
Voilà. C'est une espèce de clin d'œil, parce qu'après tout, le Louvre, c'est quand même l'endroit du musée et peut-être le lieu auquel ils aspirent l'un et l'autre. Et pour l'instant, vous voyez cet être solitaire, seulement accompagné de sa chienne qui traverse cette grande place. Donc, il y a là aussi, on pourrait presque dire, une vision de l'avenir qui nous est proposée. Et oui, avec beaucoup, je le trouve, beaucoup de sensibilité, notamment, je le répète, dans cette série de clichés et de photographies qui s'intéressent aux membres de la famille.
Nous sommes malheureusement limités par le temps, alors on pourrait juste nommer quelques séries de photos, parce qu'il en a fait des archives, je crois, vous avez
plusieurs
parlé
centaines,
de
oui,
plusieurs
oui.
centaines de clichés. Et bien sûr, il a photographié les monuments de Paris, sa famille, mais aussi la famille Renoir, et la vie quotidienne chez Martial, donc vous l'avez très largement évoqué, les petits métiers de Paris aussi, et puis les symboles de la modernité, les vues prises du pont d'Argenteuil, ou je crois Villeneuve-Saint-Georges,
oui,
vue
absolument.
Du pont, qui rappelle un peu l'œuvre de Gustave.
Pourquoi ? Parce que les Minorets, donc la belle famille de Martial Caillebotte, a une propriété à Montgeron. Et donc, il a évidemment aussi beaucoup pris de photographies dans cet environnement.
Et comme je disais, malheureusement, nous sommes très limités par le temps, mais je voudrais quand même vous poser une dernière question qui est vraiment d'importance pour une radio des académies de l'Institut de France. Que pouvez-vous nous dire ou nous révéler de la fameuse affaire du legs Caillebotte ?
Oui, alors effectivement, c'est...
Vous avez parlé de scandale tout à l'heure.
Oui, bien sûr, et je vais le répéter puisque ça fait partie et de l'histoire et d'un des aspects les plus magnifiques de la personnalité de Gustave Caillebotte, la richesse dont il disposait et qui lui a permis finalement de peindre tout au long de sa vie sans se préoccuper d'avoir besoin de travailler, n'est pas le seul élément important de cette histoire. Disposant de moyens qui n'étaient pas petits, il a tout de suite pensé aider ses artistes, ses peintres qui l'entouraient et qu'il fréquentait. Parce que très vite, Gustave Caillebotte a rejoint le groupe des impressionnistes. Alors, il les a rejoints dans les cafés que ces derniers fréquentaient. Et comme, je le répète, il avait suffisamment de moyens, il a très vite, invité les uns et les autres. Alors, vous savez, les impressionnistes, encore dans les années 70, crèvent la faim. C'est la mauvaise décennie pour eux. Ils ne sont pas encore reconnus. Donc, ils n'arrivent pas à vendre. Et quand on leur propose, un dîner dans un café sur les grands boulevards, ils sont enchantés.
Le café riche.
Voilà. Donc, Caillebotte est là pour ça. Mais il fait beaucoup plus. Et c'est là qu'on voit qu'il a, j'ose le dire, une âme d'artiste. Parce qu'il est compatissant à l'égard du sort de ceux qui l'entourent. Et que fait-il ? Eh bien, il décide d'acheter des tableaux de ses amis au prix fort. Pourquoi ? Pour leur donner des bourses qui leur permettront de subsister quelque temps. Et si bien que en 1894, lorsque Gustave Caillebotte meurt, il a une collection de 64 tableaux. Mais surtout, il faut bien l'expliquer, des tableaux impressionnistes, évidemment, des périodes les plus hautes, c'est-à-dire du début de la carrière de tous ces artistes, Monet, Renoir,
Degas, Pissarro.
Voilà. Donc, ce sont des œuvres qui ont encore plus de prix. Et que fait-il ? Vous croyez qu'il va organiser une vente aux enchères pour gagner plein d'argent ? Non. Il demande à son frère et à Renoir, comme exécuteur testamentaire, de s'occuper de léguer sa collection à l'État français. Voilà un geste admirable.
Absolument.
Et donc, les autorités, c'est-à-dire le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, reçoit donc la proposition. Et que fait-il ? Il la fait étudier, évidemment, par des autorités. Et vous l'avez dit, parmi ces autorités, il y a un certain Jérôme, un artiste pompier, d'ailleurs dont le musée d'Orsay récemment a rappelé l'œuvre avec grand succès. Donc, c'est un peintre tout à fait traditionnel dans sa manière. Il compose ses tableaux comme des pièces de théâtre et donc il est évidemment totalement opposé alors à ces artistes qu'il considère comme décadents et surtout comme destructeurs de la peinture. Parce que la peinture, c'est un métier et ces gens-là n'ont pas de métier. Donc il leur en veut beaucoup pour ces raisons et il donne son avis en disant au ministre, mais non, c'est pas possible, vous allez mettre ces artistes-là à côté de peintres vivants et ces artistes-là sont le déni des beaux-arts. Donc ça n'est pas possible. L'affaire va évidemment beaucoup durer dans le temps et c'est simplement 10 ans plus tard que l'État français accepte au final la moitié de la collection Caillebotte. C'est-à-dire, comprenez-moi bien, on l'a expurgé de ses œuvres les plus redoutables. Alors, ce qui est dommage, c'est que évidemment les œuvres reviennent dans le patrimoine de Martial Caillebotte, mais comme il ne s'agit pas de peintures de son frère, il va les vendre assez rapidement. Et là, que peut-on dire que nos amis américains ne se sont pas trompés? C'est-à-dire que les tableaux sont la plupart du temps partis dans les grands musées américains.
À New York, oui.
Donc, vous avez une partie de la collection Caillebotte qui, heureusement, celle qui a été acceptée et qui constitue le noyau des tableaux présentés aujourd'hui au musée d'Orsay. Et c'est tant mieux.
Après le musée du Luxembourg, parce qu'au début, c'était
absolument.
Il voulait que ce soit exposé au
musée
du Luxembourg.
Parce que c'était ce qui se faisait à l'époque. Et puis, donc, aujourd'hui, ces tableaux sont au musée d'Orsay. Mais ce qui est invraisemblable, c'est que l'autre moitié de la collection, eh bien, elle est passée outre-Atlantique.
Probablement et là, métropolitaine à New York.
Là, on mesure bien, si vous voulez, le grand déficit d'œuvres de premier plan qui nous manque et qu'on aurait pu simplement obtenir en remerciant Martial Caillebotte et Renoir d'accomplir ce geste pieux qui correspondait au vœu de Gustave Caillebotte. Alors, ça a été à l'époque, si vous voulez, un peu comme l'a été en politique l'affaire Dreyfus. Ça a été une véritable affaire avec des partisans et des opposants, les uns considérant que c'était un geste absolument magnifique et une occasion rêvée de enfin reconnaître la qualité des impressionnistes. Et de l'autre côté, bah, vous citiez Jérôme, il y en a eu d'autres qui ont dit que, heureusement, qu'on allait oublier au plus vite cette peinture qui n'avait pas véritablement d'objet et qu'il fallait laisser là où elle était.
Je ne veux pas me priver du plaisir de faire connaître à vous et à nos auditeurs une phrase donc, du bien nommé Jérôme au sujet donc, de tout ce groupe d'impressionnistes. Alors, il se prononce donc dans le journal des artistes après que l'État, justement, finalement, eut accepté une partie donc, du legs Caillebotte. Alors, la citation est « Nous sommes dans un siècle de déchéance et d'imbécilité. C'est la société entière dont le niveau s'abaisse à vue d'œil. Pour que l'État ait accepté de pareilles ordures, il faut une bien grande flétrissure morale. » Voilà.
Vous voyez que les termes ne sont pas des termes, comment dire, choisis et distingués. C'est une critique d'une violence terrible. Et évidemment, rétrospectivement, on sait quoi en penser.
Malheureusement, nous arrivons à la fin parce qu'on pourrait vous écouter encore des heures. Mais je vous remercie infiniment, Nicolas Sainte-Fargarneau, d'être venu d'abord dans notre studio pour nous donner cet éclairage sur le parcours et l'œuvre des frères Caillebotte. Et puis pour nous avoir permis aussi d'approcher un peu l'intimité chez les Caillebotte. Et merci d'avoir ainsi contribué à mieux les faire connaître dans le monde, puisque Canal Académie est par définition une radio mondiale, n'est-ce pas?
Oui, je me permets juste, avant de terminer, de vous rappeler que l'exposition que nous présentons au musée Jacques Marandré jusqu'au 12 juillet sera fermée à cette date et qu'ensuite, la même exposition sera présentée au Musée national des Beaux-Arts de Québec. C'est-à-dire que nous allons venir de l'autre côté de l'Atlantique pour présenter ces chefs-d'œuvre et ce projet qui nous tient si à cœur.
Oui, je vous remercie beaucoup de le spécifier aussi à l'antenne, mais bien entendu, j'allais le mentionner sur le support écrit qui apparaît toujours à l'écran sur le site de Canal Académie. Encore un grand merci et j'espère à très bientôt pour la prochaine exposition au musée de Jacques Marandré. Au revoir.